Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes bouleversent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, oui, juste un peu à droite, là, le chaos reprend sa source dans Big Bang Station, le mercredi, sur IDFM Radio. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Chaque mystère a sa solution, c'est le slogan de cette émission. Nous sommes sur IDFM Radio tous les...
mercredi soir, de entre 21h jusqu'à 22h.
Sur les 98 FM en Ile-de-France et en DAB+, et sur Facebook, Instagram, X, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, au choix sur notre page, notre compte, notre site, notre appli, IDFM Radio. Big Bang Station, c'est depuis 28 ans un thème d'actualité sur lequel les chroniqueurs histoire, juridique, bien-être, musique, télé... culture pop colle le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons de détective privé. Petit Manu nous racontera les origines et l'histoire de ce métier.
Bonjour à tous. Eh oui, parce que est-ce qu'on sait ce que c'est? Mais
d'où ça vient?
D'où ça vient, origine, de quel siècle? Eh ben, A plus B égale C, je vous donnerai des bonnes explications. Vous saurez tout. Évidemment tout.
Tout.
Comme on vous dit, un grand plaisir de vous retrouver. Sachez-le, on va vous faire des beaux euros.
Marie-Christine s'est penchée sur la question: quels sont les droits et limites d'un détective privé face au respect de la vie privée?
Alors, le détective privé exerce une activité encadrée très strictement par la loi. Je vais tout vous expliquer.
Quel genre d'enquête peut faire un détective privé? Antoine Vignolet, détective privé, répondra à nos questions. Et qu'est-ce qui pousse certaines personnes à chercher la vérité à tout prix, Ponari?
Salut Didier, salut à tous. On imagine souvent le détective privé comme dans les films, imperméable beige, carnet en main... recherche d'indices. Mais derrière cette image se cache une réalité bien plus profonde, celle des personnes en quête de vérité. Dans cette chronique, je vous parle de cette quête de clarté à la fois extérieure et intérieure. Et si la vie elle-même était le plus grand des détectives? A tout de suite.
Et pour notre page culture, Kevin nous proposera un quiz des chansons qui parlent de détectives privés.
Tout à fait, salut Didier, salut à toutes et à tous. Eh bien, après les célibataires, la chocolatine, les assistantes maternelles, on termine ce mois de novembre avec un quiz spécial détective privé. Nous allons découvrir les chansons tout à l'heure.
Comment sont représentés les détectives privés dans les séries télé? Est-ce que ça colle vraiment à la réalité de ce métier? Stani est allé enquêter. Enfin, Eric nous parlera du plus célèbre des détectives privés de la pop culture, qui est...
Eh ben, Sherlock Holmes.
Ah bien, parce qu'au début, tu m'avais dit Maïté, rien.
Non, c'est toi, Sherlock Holmes. Non, c'est bien Sherlock Holmes. Maïté, c'est la cuisine, c'est pas la même chose. Je précise. Et Mangan,
voilà.
Faut savoir. Mangan dans une main de boulot, l'émission.
Mangan dans une main de boulot.
Qui contrôle tout. Et ce qui a bien me taquiné, notre cher ami Didier.
Didier.
Oh là. Il contrôle tout, hein. Très professionnel.
Il y en a à peu près 800 en France, je parle évidemment de détectives privés. Entre Sherlock Holmes et les séries policières, on connaît tous hein, les détectives privés, mais savez-vous qui a vraiment inventé ce métier fascinant? Petit Manu nous raconte cette incroyable histoire.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama. Donald Trump. Hillary Clinton. David Bouillet. Joe Cocker. Justin Timberlake. Lady Dada. Sakina. Oui, Kendrick.
Retrouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les travaux, ça.
Quoi?
Alors, d'où ça vient, les détectives privés? On a vu les séries, on connaît quand on était plus jeune. Et bah, d'où ça vient? Alors, les détectives privés, alors qu'on va vous parler d'un métier qui nous fait tant rêver grâce aux films et aux bouquins, qui va nous parler tout à l'heure, Eric, tout à fait, voilà. Les détectives, parce que, figurez-vous que Sherlock Holmes et ses déductions géniales, il y a eu, des détectives en chair et en os qui ont littéralement inventé ce métier. Alors, l'histoire, ça commence, il faut savoir, en 1933, à Paris, un certain Eugène François Vidocq, et je crois que c'était joué par le comédien Claude Brasseur, qui avait joué Vidocq.
Oui, voilà,
On en parlera tout à l'heure. Et attention, ce type-là est du lourd. Ancien bagnard, évadé de plusieurs fois, il finit par se ranger et propose ses services à la police parisienne. Carrément, Sautru, il connaît le milieu criminel comme sa poche. Napoléon, en personne, lui confie la création de la première brigade de sûreté. Mais, ce qu'il faut savoir, le plus fort, c'est qu'en 1933, Vidocq quitte la police pour fonder le tout premier bureau de détective privé, l'histoire, le bureau des renseignements. Ah bah, tiens, d'où ça vient? Et bah voilà, vous avez la réponse. De l'autre côté de l'Atlantique, un certain Alan Parkinson s'inspire directement de Vidocq. En 1950, on a beaucoup avancé, il crée le Perkin National Detective Agency à Chicago. Ce devise de « We never sleep », nous dormons jamais. D'ailleurs, c'est que là vient l'expression américaine « private eye », l'œil.
« Private eye ».
Oh, comment tu dis?
Ben c'est les yeux.
Ah oui, oui, exactement.
Private eye. Aïe.
Aïe. Oh là, très bien, Didier. C'est mieux que moi. Voyons, bravo, il s'est entraîné. Oh là.
Private eyes.
Oh, alors, moi je l'ai dit. C'est, voilà, on a chacun sa façon. Voilà. À cause du logo de Picardson qui représente un œil grand ouvert. Et c'est.
Un œil grand ouvert.
Bah, c'est vrai. Et enfin, c'est là.
Ouvert.
Oui, grand ouvert. Voilà. Et effectivement. Et c'est là que l'exploitation Picardson emploie rapidement certains agents, dont Kate Wayne, la toute première femme détective de l'histoire en 1956, un an après. Ils enquêtent tous vol, adultère, espionnage industriel, etc. Ils protègent même Abraham Lincoln. Comme quoi? Ah. Comme un complot d'assassinat. En France, il faut attendre 1942 pour que le métier soit vraiment encadré. Aujourd'hui, le détective privé ou agent de recherche privé, ça s'appelle comme ça, ou un diplôme, une carte professionnelle, un code d'énotologie, et fini le temps où les anciens truands reconvertissent à les truands, voilà. Alors que, voilà, la prochaine fois, vous regardez un polar, pensez à Vidocq, Parkinson, où ils ont transformé l'art et la débrouille en véritable profession. Tout ce qu'il faut savoir, je vous ai dit, un petit résumé condensé, et ben toute l'histoire, et maintenant, vous aurez...
De la création de ce métier.
De ce métier fort intéressant, on peut le reconnaître.
Merci petit Manu.
Je t'en prie avec plaisir.
En France, on recense environ 850 détectives privés agréés par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité, le CNAPS. Créé en 2012, cet organisme a pour mission de contrôler, réguler et agréer les professionnels de la sécurité privée, des agents de sécurité aux détectives privés. Son rôle est crucial, hein, délivrer les agréments, vérifier les compétences, sanctionner les abus et garantir que chaque acteur opère dans le cadre strict de la législation. Que peut faire ou pas un détective privé ? Réponse avec Marie-Christine.
Loi, réglementation, Marie-Christine vous dit tout.
Et puis, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut pas faire, oh là là, entre nos connaissances et la réalité.
Vous êtes-vous demandé quels codes garantissent la qualité et la sécurité de ces délits incontournables? Eh bien, accrochez-vous, car nous allons explorer ensemble les règles, la réglementation.
On écoute toujours Marie-Christine avec la plus grande attention. Oh là là, l'expérience de la vie, la maturité.
Alors, le détective privé, premièrement, la confidentialité, premier pilier. Donc, c'est le respect du secret professionnel. Le détective privé est tenu à une confidentialité absolue sur ses enquêtes et les informations qu'il recueille. Toute violation peut entraîner des sanctions pénales, civiles, voire la radiation de la profession.
Un peu comme un médecin.
Ah bah complètement, ouais. C'est ce que je pensais, effectivement.
Ce que n'a pas le droit de faire un détective privé. La loi interdit aux détectives privés d'usurper des fonctions publiques, comme se faire passer pour un policier.
Continue, chère Marie-Christine.
Alors, il lui interdit aussi d'installer des dispositifs d'écoute, d'intercepter des communications, ou encore d'accéder à des données protégées, telles que les autorités judiciaires, les données bancaires ou les factures téléphoniques.
Il ne peut pas... De toute façon, on aura un vrai détective privé au téléphone tout à l'heure.
Ah oui, oui, qui va nous donner des bonnes explications, qui va tout expliquer, sa façon de faire, procéder.
Il ne peut pas... non plus utiliser la ruse pour obtenir des informations, ni prendre des photos ou des vidéos dans des espaces privés, un balcon ou l'intérieur d'une voiture.
Ah, qui sont considérés du coup comme privés.
Ah bah ouais, ouais, c'est
mais qu'à l'extérieur, du coup.
Voilà, c'est
ouais.
Ça.
Il n'y a qu'à l'extérieur.
Ah, je vais éviter de me mettre sur mes balcons, là.
Oh là là, ah, tu vas devenir prudent, ah, Didier.
Oui, il faudra rester dans le placard.
Non,
placard,
quand on
c'est
en
pas
sort
mieux.
Du placard, on en sort.
Ah oui, on en sort. On est
pas rentré dans le placard.
On n'est pas... Oh, ah non, c'est la dernière chose qu'on a envie d'y être. D'être.
Alors, toute preuve obtenue de manière illégale est irrecevable en justice. Les rapports d'enquête produits par les détectives privés sont reconnus et recevables devant les tribunaux, à condition qu'ils aient été réalisés légalement.
Eh oui.
Voilà.
Eh ben merci Marie-Christine. L'infidélité ne représenterait qu'un quart à peu près des missions des détectives privés. Quel genre d'enquête peut faire un détective privé ? Pour répondre à ces questions, nous avons Antoine Vignolet, détective privé au téléphone. Bonjour.
Bonjour. Alors, il y a deux axes d'enquête, deux types de demandes sur lesquelles on est sollicité. Donc c'est tout ce qui concerne la sphère familiale au sens large. Donc bon, on va pas revenir sur le divorce, mais bon, voilà, ça joue encore sur l'attribution du montant de la prestation compensatoire qui peut être allouée à l'un ou à l'autre.
D'accord.
En fonction des différences de revenus. La garde des enfants, qui est un sujet assez récurrent et qui revient de plus en plus. Voilà, ça c'est un petit peu au sens large. Et puis, sur un plan professionnel, bien les entreprises qui font appel à nous. Et puis, un sujet qui est un peu dans l'air du temps actuellement, c'est les arrêts maladie frauduleux. Donc, on a souvent des patrons d'entreprise. Souvent, c'est des PME, voilà, qui sont déstabilisés un petit peu par des arrêts maladie répétitifs et qui ont vent que, en fait, l'employé en arrêt maladie livrerait une activité professionnelle pendant son arrêt, voilà. Sinon, la concurrence déloyale, c'est-à-dire que un employé, alors là, on est plutôt au niveau des cadres supérieurs, soit une fois qu'il a quitté sa fonction, travaille pour la concurrence, mais il est soumis à une clause de non-concurrence, justement, de ne pas travailler dans une zone géographique définie par son contrat, ou alors, même en activité, travailler pour une société concurrente qui l'aurait débauché, voilà.
Donc, pour il y a des entreprises donc qui font appel à vos services, donc c'est souvent les arrêts maladie ou les clauses de non-concurrence.
Non, oui, je vous dis, j'ai une trentaine de cas qui reviennent régulièrement. Alors, ce qui vient souvent, je vous dis, c'est encore pourquoi quelqu'un est capable de décrocher son téléphone et se dire, tiens, je vais faire appel à un détective privé. C'est tout ce qui touche à l'intime, quand vous n'avez pas d'autre solution, quand vous avez des doutes, donc effectivement la relation à l'autre, la relation affective. Et effectivement, l'adultère amène les gens à avoir envie de faire appel à nous pour avoir une réponse. Donc ça, c'est vraiment les grandes demandes. Je vous dis, les enfants qui sont sous la garde d'un des parents, et puis l'autre parent s'inquiète parce que il sait que il est pas très sérieux ou elle est pas très sérieuse. Vous voyez, par exemple, en ce moment, là, j'ai un cas, là, vous voyez, c'est même une maman. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est une maman qui, tous les soirs, laisse ses enfants en bas âge tout seul pour aller retrouver son copain.
D'accord.
Donc, les gens sont un peu démunis. Et quand on est démunis, bien souvent, ils m'appellent, ils me disent « Ah, mais je ne sais pas par où commencer, c'est la première fois que je fais appel à quelqu'un comme vous, à un détective privé, etc. » Je leur dis « Mais tant mieux !» Ça veut dire, c'est pas quelque chose qu'on utilise de manière récurrente. Mais quand on est face à un problème et qu'on n'a pas vraiment la solution, que finalement il n'y a pas la vérité, c'est-à-dire que l'autre vous dit pas, je t'aime plus, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ou j'ai un problème d'alcoolisme et quand je suis avec les enfants, je me mets la tête à l'envers et je suis pas très sérieux, ou je prends de la drogue, ou je suis en arrêt maladie, mais bon, je préfère travailler pour quelqu'un d'autre pour doubler mes revenus. Les gens ne disent pas ça, donc comme ils ne le disent pas, il faut trouver quelqu'un pour amener cette vérité, cette preuve.
Mais tout ce qui est filature amoureuse, sur la fidélité de l'autre, c'est ce qui représente le plus de vos missions
en fait. Non.
Non,
non, non, je dirais c'est un quart des demandes.
D'accord.
Quart des demandes, parce que, c'est vrai que c'est plus très à la mode, mais aujourd'hui on a l'impression qu'on peut allègrement tromper son conjoint, tout ça, mais si on est marié, la fidélité, ça joue encore, et que quand on, entre guillemets, on est victime d'une situation qu'on ne maîtrise pas, et que votre mari ou votre femme est parti pour retrouver quelqu'un d'autre, qu'elle vit avec lui, et qu'en plus, dans le cas du divorce, il vous demande beaucoup d'argent parce que il gagne trois fois moins d'argent que vous, vous avez envie de vous dire, charrie un peu, j'aimerais quand même rétablir un peu la vérité et dire que, aujourd'hui, c'est mon ex a refait sa vie avec quelqu'un, donc c'est pas à moi de continuer à lui verser une somme d'argent pour maintenir le niveau de vie. Vous voyez, ça, c'est des éléments factuels. Un divorce, on va dire, il y a plusieurs choses à gérer. La principale, c'est la garde des enfants, quand il y a des enfants mineurs. Et puis après, c'est l'aspect financier. Donc, c'est là-dessus qu'on peut intervenir.
Et est-ce que l'État peut faire appel directement à vous ?
Non, non.
Non, c'est que les entreprises ou les particuliers ?
Non, jamais. La seule chose, il y a eu un arrêt à une époque du Conseil d'État qui validait, dans le cas de l'intervention d'un détective privé auprès d'une mairie, le fait que la mairie avait effectivement, pour prouver que justement cet employé en arrêt maladie travaillait bien ailleurs, le Conseil d'État avait validé le rapport du détective privé. Donc ça, on peut pas dire que c'est l'État qui peut faire appel à un détective privé. Donc ça m'est arrivé de travailler pour des mairies, mais jamais au plan étatique. Non, l'État a tous les outils à sa disposition pour traiter les problématiques auxquelles il serait confronté. Donc non, police, gendarmerie, douane, service de renseignement, enfin bon.
On pense à l'assurance maladie. Alors du coup, c'est l'assurance maladie qui vient vérifier si vous êtes vraiment malade.
Voilà. Alors ça c'est une bonne question. Non, l'assurance maladie ne fait pas appel à nous. C'est bien dommage. Nous, on est tenté parfois par l'intermédiaire de nos clients, c'est-à-dire l'employeur qui dit mais voilà, c'est pas normal. Donc on voudrait utiliser ce que nous avons constaté pour pouvoir éventuellement faire intervenir l'assurance maladie. Mais la connexion entre l'employeur, l'enquêteur privé, le détective privé et l'assurance maladie, non, elle se fait pas. Bon, je sais qu'à une époque, voilà, j'avais un contact qui trouvait que, effectivement, ce qu'on leur amenait était valable, ils pouvaient dépêcher des agents assermentés sur place. Mais c'est pas quelque chose qui est institutionnalisé. C'est vraiment le fait d'une relation entre personnes, quoi, de gré à gré, entre le médecin de l'assurance maladie et puis, et puis nous-mêmes, quoi.
Et qu'est-ce que vous avez observé comme évolution majeure du métier de détective privé, donc, ces dernières années?
Alors, moi, j'ai commencé tôt, hein. J'ai commencé en 93, une époque où, pour être détective privé, il suffisait de se déclarer en préfecture de police à condition d'avoir un casier judiciaire vierge. Donc, vous voyez, en termes de formation, tout ça, c'était quand même bien superficiel. Il y avait rien. Et puis, on se formait dans les cabinets qui acceptaient de nous faire travailler. Et puis, bon, voilà, on regardait, on observait. Ils n'étaient pas forcément friands de transmission. Ils ne disaient pas grand-chose. Et puis, voilà, on apprenait sur le tas. Alors, ce qui fait que ceux qui restaient, au bout de nombreuses années, effectivement, avaient des compétences, en particulier de terrain, d'expérience acquise pendant leur apprentissage, on va dire. Entre 2000 et 2010, le législateur, donc l'État, a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette profession ?» etc. Sorte d'électron libre comme ça. Il faut qu'on l'encadre, il faut qu'on lui donne un statut, voilà. Et donc, c'est une profession qui est devenue réglementée. Donc aujourd'hui, si vous voulez devenir détective privé, vous êtes obligé, alors, faut avoir un bac plus 2 au minimum, et vous êtes obligé de suivre une formation qui dure une année. Donc vous avez deux organismes privés et deux universités en France qui délivrent la licence qui permet d'exercer en qualité de détective privé. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire, l'évolution, c'est la professionnalisation de la profession. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut plus s'improviser en détective privé. Le travers, c'est que bon, voilà, il y a moins de rigolos, de gens un peu farfelus, voilà, qui font cette profession comme on pouvait en avoir dans le passé avec toutes les dérives qu'on a pu connaître. Aujourd'hui, ceux qui sortent de la formation ont des connaissances, en tout cas juridiques, normalement, qui concernent notre activité. Mais par contre, voilà, il manque encore un petit peu d'expérience. Et à l'époque, je dois dire, à 5 ans, on m'avait donné ces statistiques, il y en a 90% qui n'exercent plus. Donc c'est difficile de faire son trou aujourd'hui dans la profession, parce qu'on n'est pas très nombreux, on est 800, et le nombre n'a jamais réellement augmenté de manière significative.
Oui, c'est peu, et surtout que l'équilibre vie privée, surtout en ce moment, et droit, il doit être quand même très difficile.
Non, parce que ça fait longtemps que le législateur, vous savez, sous la forme des jurisprudences, une jurisprudence, c'est des décisions de justice qui sont prises par des tribunaux et qui font office d'indicateurs de référence en termes de loi. En fait, évidemment, à partir du moment où je suis une femme ou un mari, dans le cas d'un divorce ou d'une garde d'enfant, je rentre dans la vie privée de la personne. Mais je n'ai pas d'autre choix, puisque par essence, la demande concerne la vie privée, c'est-à-dire que c'est le mari ou la femme qui me demande, dans le cadre de son union, de son mariage, d'intervenir. Donc ce qui est important, en fait, c'est pas tellement l'aspect vie privée, c'est la proportionnalité de l'intervention. C'est pas le fait de la teinte à la vie privée. Il n'y a pas d'atteinte réellement à la vie privée. L'important, c'est que les photos soient prises dans un contexte bien particulier, voie publique, etc., qu'il n'y ait pas de diffusion, qu'il y ait la confidentialité dans les informations qui vont être transmises, qu'elles sont transmises à l'avocat pour qu'elles transmettent au juge, etc. Donc, vous voyez que ça ne sort pas de ce cadre, on va dire, entre les protagonistes de l'affaire. Mais ce qui est important, c'est la proportionnalité. Et les tribunaux se sont bien rendus compte que l'apport de la preuve, à un moment donné, on n'a pas d'autre choix, parfois, que d'utiliser une surveillance. Pour quand vous êtes dans le cadre d'un ex-employé qui ne respecte pas sa clause de non-concurrence, donc voilà, qui est payé pour ça et qui est pas censé travailler, à un moment donné, si vous voulez quand même le démontrer, vous êtes bien obligé de le suivre. Ça démarre d'où, une surveillance? Ça démarre de chez lui. Voilà. Maintenant, si moi je me rends compte que, je sais pas, il va faire ses courses, ou qu'il va au cinéma, ou c'est pas mon affaire, donc ça c'est pas stipulé, c'est pas mentionné dans le cadre de l'affaire, et c'est pas dit à mon client. Mais par contre, voilà, on est bien obligé d'intervenir dans ce cadre-là. Après, je dis, faut pas que ça dépasse ce qui est, on va dire, supportable, on va dire, comme, donc c'est que ça va être quelques journées de surveillance, mais pas des semaines et des semaines.
Quel droit de faire un détective privé de plus qu'un particulier? Je Rien. Suppose que c'est plus le savoir-faire.
Exactement. C'est voilà. Ça. Voilà, vous avez, c'est exactement, c'est une technique, c'est difficile. Moi, je sais que j'ai déjà amené des confrères à vous sur des surveillances. Réussir une filature, c'est compliqué, pas se faire prendre, pas se faire voir. Réussir à ne pas perdre la personne, observer ce qu'il faut observer. Voilà. Ça, c'est le savoir-faire. Après, nos rapports, moi, j'ai jamais eu un rapport qui a été contesté par qui que ce soit parce que, voilà, c'est précis. Je raconte pas de bêtises. Par contre, effectivement, on n'est pas assermenté. Vous voyez, par exemple, ce que je dis, un huissier de justice, par exemple. Souvent, on me dit, mais un huissier de justice. Un huissier de justice, par exemple, quand il va faire son constat, il faut qu'il se déclare. C'est-à-dire, bonjour. Par exemple, ce qu'ils font, ce qu'on appelle une sommation interpellative. C'est-à-dire, ils vont constater qu'une personne est en train de travailler sur un chantier, alors qu'il, par exemple, il est censé être en arrêt maladie. Il est obligé de se déclarer. Bonjour, je suis maître un tel, huissier de justice, vous êtes bien monsieur. Voilà. Bon. Il suffit que la personne dise, non, je suis pas cette personne, etc. Enfin, vous voyez. Alors que nous, toutes nos constatations, elles vont être faites avant, en amont. C'est-à-dire qu'on va compiler un certain nombre de pièces sans avoir besoin de dire qu'on est là et de prévenir les personnes.
D'accord. Et vous êtes déjà arrivé de vous faire prendre?
Oui, c'est rare, mais ça arrive. Bon, c'est jamais très agréable. En général, on s'en rend compte. Voilà. On voit que la personne fait des coups de sécurité. C'est-à-dire qu'elle se gare sur le côté, elle nous laisse passer, elle redémarre, elle a une attitude. Voilà. Bon, à ce moment-là, on arrête. Et, alors, on essaie de reprendre quelques semaines plus tard. Et puis, si on voit que l'affaire, ce qu'on appelle est cramée, c'est-à-dire qu'on est, on est repéré, bon ben voilà, on en reste là, parce que là effectivement on rentrerait dans une forme de harcèlement, c'est pas du tout le but, donc la mission est terminée. Alors après, pourquoi la personne s'en rend compte? Parfois vous avez des gens spontanément sont méchants, qui ont des choses à se reprocher, parfois en interne, souvent je dis aux gens qui m'appellent, au patron, je leur dis non, attendez, n'en parlez, voilà, c'est entre vous et moi, éventuellement, voilà, votre directeur financier. Mais quand la secrétaire, quand 4, 5, 6 personnes sont au courant dans l'entreprise, en général, il y a des fuites et puis vous démarrez l'affaire et puis la personne est déjà au courant qu'elle risque d'être suivie.
Et quelle est l'enquête qui vous a le plus marqué?
J'ai eu des très belles enquêtes. Je sais qu'il y a eu, par exemple, sur où vraiment les enjeux étaient importants. C'est-à-dire les enjeux en termes de... Par exemple, je sais qu'il y avait une usine, ils avaient du sabotage en interne, il y avait un risque de fermeture et ça mettait 500-600 employés sur la paille s'il y avait cette fermeture. Donc j'ai identifié d'où venaient ces sabotages. Donc là, on se dit, bah tiens, on a été utile. Sinon, j'ai envie de dire, la dernière, là, par exemple, celle que je vous citais, bon, voilà, moi, j'ai un monsieur qui est de bonne foi, voilà, sa femme veut divorcer et elle part tous les soirs, elle plante les enfants en bas âge pour aller retrouver son amant. Bah, je sais pas, moi, je suis content de pouvoir lui, parce que lui, il le sait pas, il part travailler la semaine, il est pas là. Ben, voilà, pour la sécurité de ses enfants, pour ses droits à lui, parce qu'il me dit, voilà, moi, je veux pas laisser mes enfants à leur mère, et je pense que mes rapports seront utiles dans la manifestation de la vérité, et donc au juge de prendre en compte cet élément quand même assez grave, quoi, c'est-à-dire cette inconséquence. Donc dans ces moments-là, je me dis, oui, bah tiens, je suis content d'avoir apporté les preuves dont il a besoin.
Et comment la technologie change-t-elle votre métier, les caméras, les GPS, les réseaux sociaux? Parce qu'en termes d'écoute, hein, on l'a vu avec Marie-Christine, on peut pas mettre de micro dans un lieu privé.
Oh non, de toute façon, toute captation d'une conversation à l'insu des personnes est considérée comme un acte délictueux. Donc, de toute façon, les enregistrements... Alors, les gens, ils me disent... Parfois, ils m'appellent, ils pensent que détective privé, vous savez, c'est un mot un peu mythique. Hein. On a l'impression qu'on peut... Détective, il peut faire tout et n'importe quoi en dehors des clous. Ce qui n'est pas du tout le cas. D'où ces formations, d'où ce que je vous disais au départ. Les gens pensent que, voilà, ils me disent « Ah, ben, je peux mettre sur écoute. » Ils le font pas, mais s'ils le font, ils font pas appel à moi. Mais je leur dis, de toute façon, alors après, c'est pour votre propre information. Bon, si vous le faites, mais il y a deux choses. La première, c'est que c'est inutilisable. C'est-à-dire, vous arrivez en disant, regardez, monsieur le juge, j'ai coincé ma femme, regardez, elle me trompe, j'ai piégé son téléphone, j'ai entendu toutes ses conversations et ses SMS. Celui pour qui ça va mal se placer, c'est celui qui a mis ce dispositif d'écoute dans le téléphone du conjoint. Et ensuite, la deuxième chose, parfois je leur dis à ceux qui seraient tentés de faire ça, je leur dis, vous savez, moi je suis un filtre. Là, par exemple, j'ai souvent des cas où j'essaie de pondérer entre ce que je vois, ce que j'observe et ce que je vais raconter à mon client. Alors, je lui dis toujours la vérité, j'ai jamais menti, mais je vais la rendre digeste, vous voyez, acceptable. Oui. Je sais que j'ai un collègue qui, dans le passé, il a annoncé à sa... c'était une trentaine d'années, hein, au mari que sa femme le trompait, il est rentré, il a flingué tout le monde. Hein. Donc, ce que je veux dire, on est dans le passionnel, hein, quand on est dans les affaires de couple, etc. Donc, il faut quand même être très, très vigilant. Donc, voilà. Si vous entendez votre femme raconter ses ébats avec son amant et que vous êtes là en train d'entendre ça, bon, d'abord, je vous dis, c'est complètement illégal. Le législateur, il a été clair. Il a dit toute tentative de dispositif d'écoute ou même de suivi par GPS, etc., c'est 1 an de prison et 45 000 euros d'amende. Mais si c'est le conjoint, c'est 2 ans de prison, c'est le double. Et 90 000 euros d'amende. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est clair. En fait, il faut savoir qu'en France, dans le droit français, au pénal,
oui,
la preuve est libre. C'est-à-dire que vous pouvez, d'accord, utiliser une preuve obtenue de manière illégale si elle vient contribuer à l'apport de la vérité. Mais on peut aussi vous attaquer du fait que vous avez utilisé un moyen illégal pour obtenir ces preuves.
D'accord, oui, c'est illégal, mais on peut s'en servir.
Au civil, si vous apportez une preuve illégale, c'est-à-dire au civil, c'est tout ce qui concerne les conflits entre deux personnes, une administration et un employé, une société et son employé, etc. Là, on est ce qu'on appelle au civil, et il faut que les preuves soient légales. Vous ne pouvez pas amener un enregistrement obtenu de manière pirate pour démontrer ce que vous êtes en train d'avancer. C'est pour ça que nous, nos preuves, elles sont recevables. C'est-à-dire la manière dont on les présente les rendent utilisables en justice.
Eh ben, merci Antoine Vignolet. Je rappelle que vous êtes détective privé.
Merci beaucoup.
Et si derrière chaque enquête, chaque recherche se cachait une quête beaucoup plus profonde, qu'est-ce qui pousse certaines personnes à chercher la vérité à tout prix? Pourquoi ce besoin de lever les doutes, de connaître ce qui se cache derrière les apparences? Ponari va nous apporter son éclairage. Et retrouver la chronique bien-être.
Bah, de Ponari, et puis je peux vous dire qu'elle assure, elle ne voit. On est rempli d'émotions. Les yeux, on est capté sur elle.
Posez-vous la question, de quoi ai-je besoin aujourd'hui pour être bien avec moi-même?
Et même des fois, on a failli pleurer d'émotions.
La chronique bien-être de Ponari.
On connaît tous l'image du détective privé des films. Imperméable beige, carnet en main, silhouette mystérieuse suivant les pas d'un inconnu. Mais derrière cette image romanesque, il y a une réalité bien plus intime, celle des personnes en quête de vérité. Car si quelqu'un fait appel à un détective privé, ce n'est pas seulement pour obtenir une preuve, une photo, un rapport. C'est souvent parce qu'il ressent au fond de lui quelque chose d'inexpliqué. Un malaise, un doute, une dissonance entre ce qu'on lui dit et ce qu'il perçoit. Et ce doute, c'est une forme de souffrance. Le doute épuise, il ronge l'esprit, il fragilise le cœur. Il crée un espace entre la réalité que l'on vit et la vérité que l'on pressent. Alors chercher la vérité devient une manière de retrouver la paix. Et c'est là que le rôle du détective prend une dimension profondément humaine. Il devient un miroir du besoin de clarté que chacun de nous porte. Parce qu'au fond, nous sommes tous à un moment de notre vie des détectives intérieurs. Oui, nous aussi, nous cherchons des indices dans nos relations, nos émotions, nos comportements et oui, nos blessures aussi. Nous cherchons à comprendre pourquoi certaines choses se répètent, pourquoi certaines situations nous font mal, pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons. Et cette quête-là, c'est celle de la vérité du cœur. La vérité extérieure, celle qu'un détective peut mettre en lumière, peut libérer une situation. Mais la vérité intérieure, celle que votre âme vous révèle, libère votre vie entière. Apprenez à écouter cette vérité-là, parce que c'est oser se regarder sans phare. C'est accepter de voir ce qui est, même quand c'est inconfortable. Parce que la vérité ne détruit pas, non, elle dépouille ce qui est faux. Elle dissout les illusions et elle ouvre la voie à une guérison profonde. Dans mon travail de coach et d'énergéticienne, j'accompagne souvent des personnes qui, comme ses clients de détective, veulent comprendre. Mais ce qu'elles cherchent en réalité, c'est à retrouver leur pouvoir intérieur. Et ce pouvoir commence toujours là, écoutez bien, au moment où l'on cesse de fuir ce que l'on sent vrai. Alors oui, la vérité peut bousculer, mais elle libère toujours. Parce que la clarté, même douloureuse, vaut mieux que l'ombre du doute qui nous enferme dans la souffrance. Et si finalement la vie elle-même était le plus grand des détectives, elle place sur notre chemin des signes,
des synchronicités, des rencontres, non pas pour nous punir, mais pour nous éveiller, pour que nous cessions de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. C'est la vérité qui guérit. Alors, prochaine fois que vous doutez, plutôt que de chercher des preuves, cherchez en vous. Écoutez ce que votre cœur vous murmure, car lui, il sait. La vérité ne vient pas toujours de ce qu'on découvre, mais de ce qu'on ose enfin regarder.
Merci Ponari. Qui c'est qui a déjà eu affaire à un détective privé, Manu?
Non, pas spécialement. J'ai vu dans les séries comme ça, mais...
On t'a jamais suivi?
Ah non, non.
T'as jamais fait appel à un détective privé?
Non.
Bon.
Non,
et Marie-Christine, oui?
Oui, ça m'est arrivé. Oui, pour quelqu'un qui j'avais prêté de l'argent, qui ne me le rendait jamais. Et donc, j'ai pris un détective privé
et
pour savoir
récupérer. Si... Et t'as pu le
récupérer? Non, mais parce qu'il était... Parce que c'était un voyou.
Ah oui.
Voilà,
on va
dire. Alors, le détective, en fait, a suivi cette personne, a pris
des
photos.
Non, il a pu me donner les renseignements de son compte bancaire, etc.
Ah.
Parce qu'à l'époque, l'huissier ne faisait pas ça. Maintenant, c'est les huissiers qui font
d'accord.
ça.
D'accord.
Voilà, et moi, je voulais savoir s'il était solvable ou de mauvaise foi. Mmh. Et il était de mauvaise foi.
Bon, donc,
mais t'as rien pu faire.
J'avais un jugement de justice, une reconnaissance de dette, et c'est rendu insolvable. Mais bon, l'autre enlevait l'argent, voilà.
Bon, et Kevin, t'as déjà eu affaire à un détective privé?
Non.
Moi non plus.
Et toi?
Non, petit Manu, je sais qu'il a tenté de faire appel à un détective privé pour retrouver son ex.
Non. Avec quoi j'y pense? C'est vrai que j'y pense. J'y penserai.
Parce qu'elle a disparu du jour au lendemain tu voulais la retrouver.
Non, parce que c'est vrai, j'ai une histoire d'amour qui a commencé mon début musical, aller voir La Fille du Soleil. C'est elle, justement, une certaine Anne. Et c'est vrai que plus j'y pense, l'émission, et je me dis, oh là là. Mais j'ai encore
et Anne
pas.
S'est tirée du jour au lendemain.
Il y a une histoire, et puis oh là là. Ouais.
Et tu l'as jamais retrouvé?
Ah bah non, je l'ai jamais retrouvé.
Et pourquoi t'as pas fait appel à un détective privé?
Ah bah, tu sais que j'en parle, mais c'est vrai que j'y pense comme ça. Allez voir mon clip, et je suis dit...
Donc La Fille du Soleil, c'est ton ex
voilà, mais c'est vrai que quand je pense à l'émission, je me dis, oh là là.
Mais petit Manu, on peut faire peut-être un appel?
Oui.
Si Anne nous écoute.
Oh bon, ceci dit, elle a vu le début, mais elle n'a pas vu la fin.
Elle s'appelle comment de nom de famille? Elle est partie du côté de Marseille.
Sud, et même j'avais fait une interview, et le portable, il est parti très
avec vite. Un vieux monsieur très riche, tu m'as dit.
Non.
C'est lié. C'est pas la lune, la fille du soleil.
Ah non, pas du tout. Une charmante demoiselle. Hein. Et non, c'est vrai. Mon clip s'appelait énormément.
Mais t'aurais pu la retrouver avec un détective privé.
En tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. En revanche, j'ai pu commencer ma carrière en slam
grâce à cette douleur.
Une peine de cœur et je commençais ma carrière en slam. Mais c'est vrai que j'y pense. Oh là là, t'as fait de la télépathie, Didier. Hein, oh là là, mais j'y pense. Mais enfin, je vous tiendrai au courant. Mais c'est vrai que je pense à toutes les missions, à elle en particulier. Mais enfin, jusqu'à présent, j'ai jamais fait appel.
Faudrait peut-être que tu l'oublies maintenant.
Bah, mais j'ai jamais fait appel de détective privé. Mais c'est vrai que j'y pensais. Hein, c'est toujours bon à savoir.
Et nous ouvrons notre page culture pop, musicale et télé. Le jazz est très souvent utilisé pour des séries de détectives privés. Il évoque à la fois le mystère, la nuit, la vie souterraine, comme les thèmes musicaux emblématiques de la série Peter Gunn ou The Rock Ford File, qui utilise jazz, guitare électrique et synthé pour créer suspense et tension. Même dans la pop, on retrouve ce clin d'œil. La chanson Private Eyes de Alan Watts transforme la filature en métaphore amoureuse, tandis que Smooth Criminal de Michael Jackson évoque un crime mystérieux, rythmé et palpitant. La musique, qu'elle soit orchestrale, jazz ou pop, devient un instrument de narration, comme si chaque note suivait les pas du détective. Sherlock modernise le mythe avec suspense et musique électronique minimaliste. Véronica Mars mélange enquête et humour adolescent avec une bande-son pop-rock énergique. Colombon et Monk misent sur l'ambiance jazzy pour accompagner des détectives atypiques et méthodiques. Et quelles sont les chansons qui parlent de détective privé? La réponse dans le quiz de Kevin.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz, attends. Quiz. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Je vais me porter sur un truc.
Mais sur trois les amis.
Et oui, hein, les détectives privés ont été mis en lumière en chanson. C'est le cas notamment des titres que je vous propose pour mon quiz spécial. À commencer par une chanteuse, mais aussi animatrice télé. Il fut un temps que vous avez bien connu sans doute. De qui il s'agit? Est-ce que vous l'avez reconnu?
Ça fait une heure que j'attends sous la pluie.
Bah Dorothée déjà.
Dorothée, tout à fait. Dorothée. Ah ben, cette chanson intitulée à votre avis?
Détective bah, privé
non, oui. Oui, détective privé, tout à fait.
Ah, mais tu savais pas, Manu.
C'est vrai. C'est vrai, je pensais que c'était Petit Pain au Chocolat, je me compte. Je m'étais trompé. J'aime trop être fille.
Effectivement, nous, notre
show, sur le qui vive. Fatigué.
Vas-y, je chante, Didier. Alors là.
Mon métier.
Là, j'avoue, c'est une première Didier qui chante. Alors là, je rêve.
Effectivement, j'allais dire Didier, Dorothée, avec cette chanson intitulée Détective privé. Dorothée qui a fêté, je crois, récemment ses 72 ans.
Oui, oui, elle était interviewée récemment, là, un peu partout. Elle revient, c'est une bonne chose, quoi. Mmh.
Et cette chanson Détective privé raconte sur un ton assez léger et ludique l'aventure d'un détective privé incarné au féminin par la chanteuse, parce que cette chanson est sortie dans les années 80 et on disait pas les détectives privés au féminin, tout était au masculin.
J'ai l'impression que c'est mixte.
C'est ça, oui. Et ce détective privé, en l'occurrence elle, se trouve sur une enquête entre sérieux et humour. Et dans la chanson, elle dit « Ça fait une heure que j'attends sous la pluie et pas moyen de me mettre à l'abri. » Elle se demande ce qui lui a pris de choisir ce métier de détective privé. Et elle reconnaît que c'est un métier qui n'est pas toujours facile.
Ouais, elle doit le regretter par la suite, quoi, j'imagine.
Exactement, oui. On reste dans le thème avec un chanteur, cette fois, de qui il s'agit.
Oh, je la suivais depuis longtemps, j'étais tout essoufflé.
Il est toujours vivant. Il a maintenant 83 ans.
Ah, donc un certain âge.
Il est très connu. Hein. Il a un rapport très particulier, notamment avec le regretté Johnny Hallyday.
Ah, c'est pas Eddie Mitchell ?
Oui, Eddie Mitchell.
Eddie Mitchell, monsieur Eddie, qui faisait la dernière séance, je me rappelle.
Oui,
j'étais encore à l'école. Oui. Ah, ouais, monsieur Eddie Mitchell aussi. Monsieur Eddie. Il chantait avec aussi Michel Sardou.
Exactement.
Les vieilles canales.
Voilà. Alors, pas dans les vieilles canales.
Non,
les vieilles canales, c'était avec Johnny et Jacques Dutronc.
Exactement, effectivement. Tu fais bien de confirmer.
Et oui, Eddie Mitchell avec cette chanson de 1964, Détective privé. Oui, une chanson qui raconte l'histoire d'un homme qui s'improvise détective privé pour surveiller une femme soupçonnée d'infidélité ou du moins d'un comportement mystérieux. Et dit d'ailleurs dans la chanson, je la suivais depuis longtemps, j'étais tout essoufflé. Soudain, je l'ai vu s'arrêter près d'un homme brun et musclé. Un homme brun, grand, très musclé. Gentiment, elle lui a souri. Ensemble, ils sont partis. Et il dit même à l'instant, j'ai envie de vous corriger, monsieur le détective privé. Oui, oui, monsieur le détective privé. Et on passe maintenant à un autre artiste, très célèbre, mais qui nous a malheureusement quitté pour le coup.
Ah, un certain Michael Jackson.
Michael Jackson. Avec cette chanson intitulée, à ton avis Didier, c'est dans le lancement.
Smooth Criminal.
Yes.
Mais dis-moi Didier, t'as pas fait l'américain parce que je remarque que...
J'ai fait l'anglais.
Ah, l'anglais, mais t'as un super accent américain. Moi j'ai
dit... Vas-y, dis-le.
Non, mais je veux faire rire tout le monde, j'ai pas ton talent. Oh, dis-le moi à ma place. Smooth Criminal. Voilà. Ah, j'ai réussi à le dire.
Ça va.
Mais en tout cas, Didier, bravo. Hein. Vraiment, l'accent américain, chapeau bas, l'ami, je voulais dire.
Chanson de Michael Jackson, sortie en 1987 et inclus dans l'album Bade. Est-ce que vous connaissez cet album?
Ah oui.
La chanson
Bade.
C'est ça.
Voilà, c'est ça. Il y a même, voilà.
Allez, je vous propose qu'on écoute un extrait de Smooth Criminal.
Are you okay?
Alors, Smooth Criminal de Michael Jackson, c'est une chanson qui raconte une agression mystérieuse subie par une femme nommée Annie dans son appartement. Et Michael Jackson, il joue le rôle d'un témoin ou narrateur qui découvre la scène du crime et tente de comprendre ce qui s'est passé. D'ailleurs, il dit dans la chanson, Annie, are you okay?
Ah oui, tu veux dire comment tu vas, Abby?
Voilà, tout à fait. Oui.
Et je crois qu'il a même un costume belge, si je me rappelle bien.
Un costume blanc,
plus. Ouais, blanc, tout à fait, c'est ça, dans le bon souvenir. Ah, vraiment, il ne visait pas comme les autres. Michael.
Il s'adresse dans cette chanson à la victime, mais aussi indirectement à l'auditeur, comme s'il demandait si nous, spectateurs, allons bien face à cette violence. Et on termine avec un groupe britannique. De rock britannique. Dans le nom du groupe, il y a Dear, mais ça se dit en anglais.
Dear, say.
Dire Straight.
Oui, tout à fait. Dire Straight.
Avec cette chanson intitulée Private Investigation.
Ils sont passés cet été, en gars. 14 juillet.
Ah, t'es allé les voir
sur IDFM.
Mais c'est une chanson peu courante qu'on connaît pas.
Non, mais en fait, c'est une chanson de 1982 inclue dans l'album de Dire Straits Love Over Gold, qui n'est pas une histoire policière classique, mais plutôt une plongée introspective dans la tête d'un détective privé à la fois désabusé, solitaire et fatigué du monde. Et vous savez qui est le membre phare du groupe? Comment il s'appelle?
Alors là,
Bob Dylan.
Non, c'est Mark Knopfler, qui est chanteur et guitariste du groupe. Et dans cette chanson, le narrateur se présente comme un professionnel blasé. Il enchaîne les enquêtes, mais il y trouve plus de sens. D'où le côté un peu tristouné de la chanson, on peut le dire. Et dans cette chanson, le détective, c'est un miroir de l'âme humaine. Il fouille dans la vie des autres, mais découvre surtout le vide et la fragilité des apparences.
Ah oui, donc c'est un peu de la tristesse, la nostalgie.
Exactement. Merci à tous.
Merci Kevin.
Et n'empêche qu'on peut féliciter quand même Didier. Il a quand même chanté. T'as fait tes débuts chanteur Didier.
Il a déjà chanté dans l'émission.
Je sais, mais là.
J'ai chanté quand?
Tout à l'heure, t'as chanté une chanson. Oh, un petit refrain comme ça. Eh, tu pourrais devenir chanteur Didier, hein?
Je m'en rappelle même pas.
Oh, t'inquiète pas. Eh, on applaudit très fort. Didier chanteur.
Je suis chanteur ventriloque.
Eh ben voilà. Encore un des talents.
Ça s'appelle du playback.
Oui, c'est vrai. Bon, moi, il a de l'inspiration. Bon, c'est bien, on est avec toi, Didier.
Eh bien, merci, Kevin. On continue à parler de détective privé sur IDFM Radio jusqu'à 22h avec longue série.
Pop.
Ben non, série.
Non, série avec Stani.
Série télé.
Télé, tout à fait.
Du côté du cinéma, Chinatown. Où The Maltese Falcon plonge dans le polar noir classique, tandis que Knives Out joue sur l'humour et les intrigues modernes. En télé, on peut citer notamment Hercule Poirot, Agatha Christie ou encore Miss
Marple. Et puis aussi Marple. Il y a aussi Nestor Burma avec le rôle.
Alors en France, il y a Nestor Burma
avec le rôle Guy Marchand.
Effectivement, ou encore Lupin avec l'incontournable
Georges Ducrier.
Omar Sy,
tout à fait. Voilà.
J'allais dire non, petit Manu, si, Omar.
Oh là là.
À l'écran, le détective est charismatique, intrépide et solitaire. Dans la vraie vie, le métier est beaucoup plus discret et méthodique. Recherche documentaire, surveillance légale, collecte de preuves et respect strict de la loi. La bagarre dans l'ombre ou la course-poursuite hollywoodienne appartient surtout au mythe. Comment sont représentés les détectives privés dans les séries télé? Est-ce que ça colle vraiment à la réalité de ce métier? Stan y est allé enquêter.
Comment est abordé le thème de l'émission sur le petit écran?
Je vous dis à plus les séries-vores pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries.
Enquête de Stani.
Ah, Stéphie, elle est jolie. D'où tu viens?
C'est Stani.
Stani, on t'encourage. Stéphie, Stani, Stéphanie, qui est si jolie.
Rien des
plats historiques et traditionnels Hercule Poirot, Miss Marple, des séries souvent américaines plus modernes sont venues dépoussiérer l'image cliché très classique des détectives privés avec chapeau et trench beige. À commencer par une série que vous connaissez forcément, Magnum. Soit dans sa version originale, la série culte des années 80 portée par l'inoubliable Tom Selleck, depuis vu dans Friends ou Blue Bloods, dans le rôle de Thomas Magnum, indissociable de ses chemises à fleurs et toujours au volant de sa Ferrari rouge. 8 saisons, 162 épisodes de 50 minutes entre 1980 et 1988 sur CBS. Ancien combattant de la guerre du Vietnam, puis officier d'élite dans la marine américaine, Thomas Magnum assure désormais la sécurité de la propriété du richissime auteur de polar, Robin Master, qu'on ne voit jamais, où il est hébergé à Oahu, dans l'archipel d'Hawaï. Tout en officiant comme détective privé sous le regard attentif du majordome du domaine, Higgins, un ancien soldat britannique, un brin rigide, toujours entouré de ses deux fidèles Doberman, Zeus et Apollon. Soit dans sa version moderne avec son reboot. 5 saisons, 96 épisodes de 42 minutes entre 2018 et 2024, toujours sur CBS puis sur NBC et en France sur TF1. Vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver la série sur TF1+. Alors forcément, les acteurs ont changé, le personnage de Thomas Magnum est interprété par Jay Hernandez et Higgins est devenu un personnage féminin, interprété par Perdita Wicks, ce qui modifie quelque peu leur relation. Mais le pitch reste sensiblement le même et les étincelles sont toujours présentes, fidèles à la version originale. Au programme, dans les deux cas, en dehors de magnifiques paysages, de l'action et encore de l'action. Course-poursuite en voiture ou en hélico et cascade en tout genre, mais Magnum résout toujours ses affaires avec humour et décontraction, aidé de ses amis et frères d'armes, Rick et Tissy. On retrouve un profil de détective bien différent et pour le moins surprenant dans la série policière Monk, déjà évoquée dans une précédente émission consacrée au thème de la santé mentale. 8 saisons, 125 épisodes de 40 minutes entre 2002 et 2009 sur USA Network et chez nous sur les chaînes du groupe TF1, d'ailleurs toujours dispo sur TF1+, ainsi que sur Prime. La fiction nous plonge dans les enquêtes criminelles menées par Adrien Monk, interprété par Tony Shalhoub, un ancien policier de San Francisco devenu enquêteur privé et qui collabore toujours avec les forces de l'ordre, bien qu'il souffre de troubles obsessionnels compulsifs depuis le traumatisme du meurtre irrésolu de son épouse Trudy. Ce personnage, parfois un brin agaçant, mais surtout très attachant, est aidé au quotidien par sa fidèle mi-infirmière mi-assistante Sharona Fleming dans les premières saisons, puis par Nathalie Tigger qui lui succède. Bien qu'handicapé par ses troubles très envahissants, le sens aigu de l'observation, la mémoire infaillible et la logique redoutable de Monk font pourtant de lui un enquêteur hors pair qui résout à sa manière 100% de ses affaires. Et on adore le voir faire. Encore un tout autre profil d'enquêteur, ou plutôt d'enquêtrice, puisqu'il s'agit cette fois d'une toute jeune femme dans la teen série Veronica Mars, qui a révélé l'actrice Kristen Bell, aujourd'hui héroïne de la série Nobody Wants This, aussi vue dans les films Bad Moms et voix américaine de Anna dans le film Disney La Reine des Neiges. 4 saisons et 72 épisodes au total pour Veronica Mars. D'abord 3 saisons avec 64 épisodes de 42 minutes entre 2004 et 2007, diffusés sur les chaînes du groupe M6, puis un retour en 2019 pour une ultime saison de 8 épisodes d'environ 50 minutes. Sous des apparences de lycéenne californienne ordinaire, la jeune Veronica Mars suit les traces de son père, ancien shérif injustement déchu de son poste et reconverti en détective privé. Curieuse, courageuse et particulièrement maligne, en plus de donner des coups de main à ce dernier pour résoudre ses affaires, Veronica loue ses services d'investigation à ses camarades de lycée. Mais surtout, elle consacre sa vie à percer les plus grands mystères de la ville de Neptune en cherchant le véritable meurtrier de sa meilleure amie, décédée dans de mystérieuses circonstances, ainsi que l'identité de celui qui l'a droguée pour abuser d'elle lors d'une soirée et la raison du départ de sa mère. Vous l'aurez compris, là encore, notre détective en herbe a fort à faire. Autant de représentations variées et modernisées du métier de détective, donc, et autant de séries références que j'adore pour ma part, tout comme leur générique inoubliable. Quant à savoir si elles sont plausibles, entre minorité, course-poursuite, arme à feu, c'est peut-être proche de la réalité aux États-Unis, où c'est bien connu, tout est bien plus libre, mais en France, la profession est en réalité très encadrée et réglementée. Bref, cela reste de la fiction et de très bons divertissements qui continuent d'alimenter le mythe du privé. Sur ce, je vous laisse à vos enquêtes et je vous dis à plus les sérivores pour découvrir ou redécouvrir toujours plus de séries.
Merci Stani. On termine cette émission par de la culture pop. Il était impossible de ne pas parler de Sherlock Holmes évoquant les détectives de la pop culture. Certains disent qu'il est inspiré d'un vrai détective de Scotland Yard, la célèbre force de police londonienne. Se nommant Jonathan Wisher, né en 1814 et décédé en 1881, ou encore d'Auguste Dupin, le premier exemple littéraire d'un détective brillant créé par Edgar Allan Poe. De sources sûres, on sait que l'auteur Arthur Conan Doyle s'est inspiré du docteur Joseph Bell, un médecin et surtout son professeur de l'université d'Édimbourg. En effet, la capacité du professeur à tirer des conclusions détaillées à partir d'observations minutieuses fut la grande source de l'auteur. L'Écossais Arthur Conan Doyle, né en 1859 et décédé en 1930, était aussi bien un écrivain que médecin. Entre autres livres, ses plus célèbres histoires sont Les Aventures de Sherlock Holmes, Rendez-vous avec Errico, 221B Baker... Street, à Londres, pour suivre les traces du plus célèbre détective privé.
Vous voulez remettre ça ?
Oh que oui !
Je m'appelle Sherlock Holmes.
Le taré est arrivé, je vous l'amène.
Je suis un détective consultant, et le seul au monde, j'ai inventé la fonction. Quand la police est larguée, ce qui est à peu près toujours le cas, elle m'appelle.
Fantastique !
Vous savez que vous faites du bruit.
Désolé, je me tais. Sherlock Holmes et John Watson, les plus célèbres détectives de l'histoire, mènent l'enquête. Et vous savez déjà où les trouver.
L'adresse est 221B Baker Street.
C'est en 1887 que le détective Sherlock Holmes fit sa première apparition dans la revue du Beaton's Christmas Annual. C'était un magazine britannique de poche contenant des nouvelles publiées annuellement de 1860 à 1898. Un an après, le roman voit le jour en livre et c'est le début d'une aventure littéraire qui va s'étendre en 56 nouvelles et 4 romans. Le roman « Une étude en rouge » d'Arthur Conan Doyle, dont le créateur de Sherlock Holmes, nous invite à faire connaissance avec le détective le plus célèbre du monde en le suivant dans une enquête en compagnie de son fidèle acolyte, vous l'avez deviné, le docteur Watson, qui était également le narrateur, comme c'est le cas dans tous les romans. C'est précisément dans cette première aventure que l'on assiste à la toute première rencontre de Sherlock Holmes et le docteur John H. Watson. Pour bien comprendre le succès du détective, replongeons-nous dans son époque. L'histoire se passe pendant l'époque victorienne. Pour situer cette époque, il s'agit de la révolution industrielle au Royaume-Uni. Souvenez-vous de la création de la machine à vapeur, à textile. C'est aussi à cette époque que de nombreux chercheurs ont défendu des théories de géologie et de paléontologie. Période marquante où Charles Darwin publie L'origine des espèces en 1859, où Charles Dickens et Oscar Wilde écrivent leurs œuvres, et c'est aussi à cette époque que Sir Arthur Conan Doyle publie Les aventures de Sherlock Holmes. Il place donc son personnage principal à la même époque dans laquelle il vit. Notre détective a une personnalité complexe, souffrant peut-être même de ce qu'il est, à la phobie de pas mal de choses et à la limite d'être misanthrope. À une exception près, son cher Watson qui supporte bien plus qu'un colocataire. Il peut être égoïste et pas trop tolérant. Résoudre une énigme, une enquête, c'est dans ses facultés, s'appuyant toujours sur la science de quoi avoir les pieds sur terre. Il observe, expérimente, applique une logique à ses théories. Il fait rapidement le lien entre les éléments d'une enquête, usant de son intelligence et de son intuition. Physiquement, il est décrit comme grand, svelte et élégant, souvent la pipe allumée, pratique beaucoup d'activités physiques et touche aussi un peu à la drogue. Il aurait un QI de 190 d'après l'ouvrage datant de 1999, L'intelligence de Sherlock Holmes et autres problèmes à trois tuyaux, étude psychologique du grand détective et de son compagnon le docteur John H. Watson, écrit par John Radford. L'auteur de Sherlock Holmes a voulu mettre fin au détective privé en écrivant sa mort dans Le problème final en 1893, où il a été tué par son ennemi juré Moriarty. Mais le détective a un grand succès qui l'a sauvé et on le retrouve finalement très vite dans le roman Le Chien des Baskerville en 1909 du même auteur. Encore aujourd'hui, il est un modèle. Il a nourri par exemple la passion d'une certaine Agatha Christie pour la création de son personnage Hercule Poirot. On ne compte plus les vingtaines d'adaptations à la télévision, dont la dernière en date de 2001, qui est celle de Benedict Cumberbatch et Martin Freeman. Et au cinéma avec Robert Downey Jr. et Jude Law. Pièces de théâtre, jeux vidéo et bandes dessinées, et même en dessin animé. Rappelez-vous de l'adaptation animée dans les années 80, une coproduction italo-japonaise lancée par le célèbre réalisateur des studios Ghibli, Hayao Miyazaki. Et c'est d'ailleurs sur cela, amis de la pop culture, que je vous propose de refermer cette chronique avec la version française du générique de cette série animée interprétée par Amélie Morin. Voilà qui fera plaisir aux plus nostalgiques d'entre nous.
Thank you.
Merci Eric. Et cette émission sur les détectives privés, c'est déjà fini.
C'était bien.
Si vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios dont vous retrouverez la liste sur bigbangstation.fr. Si vous avez retrouvé la trace d'Anne, ex de Petit Manu, écrivez-nous.
Bon, on ne sait jamais. Dans le sud, normalement.
Dans le sud, elle est.
Elle était de vers Marseille, par là. On ne sait jamais. Oh, une beauté.
Tu m'as dit, elle était entre Marseille et Lille. À peu près.
Enfin, Marseille par là, des alentours.
Oui, mais il faudrait un tout petit peu plus d'indices.
Voilà, une beauté.
Elle est grande comment?
À peu près ma taille, discrète.
1m10?
Non, un peu plus grande.
1m12?
Non, un peu plus grande. Mais vous inquiétez pas, la discrétion. Voilà, j'étais un peu plus exubérant. Voilà.
On se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et je vous cite le proverbe suivant. Quand une femme engage un détective privé pour suivre son mari, c'est d'abord pour savoir ce que les autres femmes peuvent bien lui trouver.
Ça fait méditer.
Salut à toutes et à tous. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau thème.
Les tortues ninjas. Voilà.
Les ninjas tout court.
Les ninjas. Et je crois qu'ils mangent beaucoup de fromage. Une semaine pour réfléchir.
Et rendez-vous la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut à tous. Salut.
Et encore bravo pour ton accent américain.
Bien.
Okay, let's stop.